Le miroir, mémoire d'une jeune aveugle, Berlioz l'espèce. Première lettre. Tu veux, chère Anaïs, que je t'écrive, moi, pauvre aveugle, dont la main marche égarée dans la nuit? Ne crains-tu pas la tristesse de mes lettres tracées dans les ténèbres? Ne t'effraies-tu pas des mélancoliques pensées qui peuvent m'assaillir? Bonne Anaïs, tu es heureuse, toi, tu vois. Voir, oh voir, savoir distinguer l'azur du ciel, les teintes du soleil, toutes les couleurs diverses, quelle ivresse! Et que ça est beau, oh grand Dieu! Je sais bien que j'ai joui de ce privilège, mais quand je fus frappé de cécité, j'avais 10 ans à peine, j'en ai 25 à présent. Voici 15 longues années que tout est noir autour de moi. Je cherche en vain à me rappeler les merveilles de la nature, chère petite, et j'ai oublié chacune de ses nuances. Je sens l'odeur de la rose, je devine sa forme au toucher, mais sa couleur qu'on vante, à laquelle on compare toutes les belles dames, je l'ai oubliée, ou plutôt, je ne puis la décrire. Un son se répète, une vue est interdite à la triste infortunée. Parfois, dans ce crêpe sombre, où se meut ma pauvre intelligence, il passe des lueurs étranges. Les médecins disent que c'est le sang, et que cela laisserait à l'art quelque espoir. Folle chimère, quand on a perdu depuis 15 ans les clartés dont s'enrichit la terre, on ne doit plus en voir que dans les cieux. L'autre jour, j'ai eu un certain moment d'émotion. En tâtonnant dans ma chambre, j'ai mis la main sur un « Oh, tu ne devineras pas en cent, en mille » sur un miroir. Je me suis assise devant, arrangeant mes cheveux avec coquetterie. Oh, que j'aurais voulu me voir, me regarder pour savoir si je suis gentil, si ma peau est aussi blanche qu'elle est douce, et s'il y a de jolis yeux sous mes cils si longs. Hélas! On nous disait souvent au pensionnat que le diable venait dans la glace des petites filles qui se mirent trop longtemps. Ma foi, s'il est venu, il aurait été bien attrapé. Monseigneur Satan, je n'aurais pas pu le voir. Tu me demandes, dans ta bonne lettre, combien de me lire, s'il est vrai qu'une faillite de banquier ait ruiné mes parents. Je n'en ai jamais entendu parler. Ils sont riches, mes parents, car je suis entouré non seulement du nécessaire, mais encore du superflu. Partout où ma main se pose, je rencontre le velours et la soie, les fleurs et les étoffes de prix. À table, les mets les plus recherchés sont servis, tout ce qui peut flatter le goût m'est accordé. Donc une heureuse aisance, chère Anaïs, est assurée aux auteurs adorés de mes jours. Écris-moi, chère belle, puisqu'enfin tu vois la revenue de cette noble Angleterre et que tu as quelque pitié de la pauvre aveugle. Deuxième lettre. Tu ne sais pas, Anaïs? Oh, tu vas rire comme une folle. Tu vas me croire insensé. Tu supposeras que j'ai perdu la raison avec la vue. J'ai un amoureux. Oui, ma chère. Moi, la fille sans yeux, j'ai un soupirant aussi langoureux, aussi assidu que le fiancé d'une duchesse. Après cela, que veux-tu? L'amour qui n'y voit pas me devait bien ça en qualité de confrère. Comment il s'est glissé chez nous, je l'ignore. Ce qu'il est venu y faire, je le sais encore moins. Qui il est, Dieu me l'apprendra. Tout ce que je puis te dire, c'est qu'il était à ma gauche à table l'autre jour et qu'il me faisait servir avec un soin et une attention extrême. Monsieur, lui ai-je dit, c'est la première fois que j'ai l'honneur de me trouver avec vous. C'est vrai, mademoiselle, mais je connaissais vos parents. Soyez le bienvenu, si vous savez estimer ces bons anges à leur juste valeur. Ils n'ont pas été les seuls pour lesquels j'ai ressenti un respect mêlé d'affection. Ajouta-t-il d'une voix douce à faire mourir. « Ah ! » répondis-je étourdiment. « Qui donc encore vous a plu ici ?»« Vous, » me répondit-il. « Moi, que voulez-vous dire ?»« Que je vous aime. »« Moi, vous m'aimez, moi, passionnément. »« Vous êtes donc un prétendu, assurément. » À ces mots, je ramenai mon châle sur mes épaules en rougissant. Pendant ce temps, il gardait un profond silence. « Mon Dieu, comme vous m'annoncez ça brusquement, monsieur, » balbutiai-je. « Oh, cela se voit dans mes regards, dans mes gestes, dans toute ma conduite. »« Cela se peut, mais je suis aveugle, monsieur. On ne fait pas la cour à une aveugle comme à toutes les femmes. »« Qu'importe la vue de moi, » dit-il avec un accent adorable de sincérité, « que me font vos yeux fermés à la lumière. N'avez-vous pas la taille fine ?» Le pied microscopique, la démarche élégante, les cheveux longs et cendrés, la peau d'albâtre, le teint de carmin, la main couleur de lys. Il avait fini sa description que je l'écoutais encore. J'avais donc, comme il le disait, la taille élégante, le pied d'enfant, la tournure distinguée, la chevelure blonde et soyeuse, la peau blanche et le teint rosé. Oh Anaïs, ma bonne Anaïs! Pour toutes les jeunes filles, un prétendu semblable qui décrit toutes les perfections n'est qu'un soupirant. Mais pour une aveugle, c'est plus qu'un prétendu, c'est un miroir. Comment, monsieur, repris-je, suis-je donc si jolie que cela? Je suis encore au-dessous de la vérité. Et que voulez-vous que je fasse de votre amour? Je veux que vous deveniez ma femme. Je partis d'un grand éclat de rire à cette idée. Y songez-vous, monsieur, m'écriai-je. Un hymen entre l'aveugle et le clairvoyant, entre le jour et la nuit. Mais il faudrait que j'attachasse à tâtons ma couronne d'oranger. Non, non, mes parents sont riches. Pour moi, le célibat est sans ennui. Je resterai fille, je coifferai Sainte-Catherine et tant pis pour elle s'il est coiffé de travers. Il est parti sans rien dire. C'est égal. Il m'apprit que j'étais gentil. Je ne sais pas pourquoi je me surprends à l'aimer un peu, monsieur mon miroir. Troisième lettre. Oh, bonne Anaïs, que de nouvelles à t'apprendre, et combien dans cette ville se passent de choses inconnues. Voici ce qui m'est arrivé, et en te le racontant, des larmes s'échappent, comme par miracle, de mes yeux éteints. Quelques jours après mon entrevue avec l'étranger, que j'appelle mon miroir, j'étais descendu dans le jardin, appuyé sur le bras de ma mère, quand on l'appela avec précipitation. Il me sembla que la domestique, en se pressant d'accourir, avait dans la voix quelque chose d'ému et de saccadé. « Qu'y a-t-il, mère ? » demandai-je, troublé malgré moi. « Rien, ma fille, quelques visites, sans doute. Dans notre position de fortune, on se doit à la société. »« En ce cas, » dis-je en l'embrassant, « je ne te retiens plus. Va faire avec ta bonne grâce habituelle les honneurs de ce salon dont je suis l'éternelle tapisserie. » Ma mère posa deux lèvres glacées sur mon front, puis j'entendis ses pas qui faisaient crier au loin le sable des allées. À peine avait-elle disparu, qu'il me sembla ouïr deux voisins, deux ouvriers qui causaient entre eux, se croyant seuls. Tu le sais, Anaïs, lorsque le Créateur nous prive d'une de nos facultés, il semble, pour nous consoler, rendre plus précises toutes les autres. L'aveugle a l'ouïe plus exercée que celui dont le regard perce l'espace. Je ne perdis pas un mot de l'entretien, bien qu'il eût lieu à voix basse, et voici ce qu'il disait. Cette pauvre famille, quelle misère, encore les huissiers, et la demoiselle qui ne se doute de rien. Elle ne sait pas que l'on profite de son aveuglement pour faire son bonheur. Comment cela? Sans doute. Tout ce que sa main touche est d'acajou et de velours. Seulement le velours est râpé et l'acajou déverni. À table, elle savoure les délicatesses du goût sans s'apercevoir, l'innocente, que la misère domestique lui est cachée. Et qu'à côté de cette même table, son père et sa mère mangent presque toujours du pain sec. Oh Anaïs, comprends-tu ma peine, mes émotions, mon trouble? On a exploité ma cécité au profit de mon bonheur. On m'a crié dans les ténèbres que j'habite un superflu aux dépens du nécessaire. Oh, c'est là un subterfuge paternel sublime. C'est bien là le comble du dévouement et de la délicatesse. Et tous les trésors que tient en réserve un cœur reconnaissant ne peuvent acquitter cette dette imprescriptible. Quatrième lettre. Je ne dis à personne que j'avais surpris ce triste et charmant secret. Ma mère serait désolée d'apprendre que tous ses soins pour me cacher ses pénuries ont été inutiles. J'affecte encore une croyance sincère dans l'état florissant de notre maison, mais j'ai résolu de la sauver. Monsieur de Saulx, c'est ainsi que se nomme mon amoureux, est revenu me voir, et Dieu me pardonne, je me suis mise à faire avec lui la coquette. Avez-vous toujours, lui ai-je dit, la même vénération pour moi? Oui, a-t-il répondu, je vous aime parce que vous êtes belle, d'une beauté distinguée, chaste et modeste. Comment est ma taille? Élégante, souple comme une liane. Ah, et mon front? Grand et uni comme l'ivoire qui l'éclipse. Vraiment? Et je me suis mise à rire. Qui vous rend si gai? Une réflexion, c'est que vous êtes mon miroir, je me vois dans vos paroles. Je voudrais, cher enfant, qu'il en fût toujours ainsi. Vous consentiriez donc à être votre miroir fidèle et à réfléchir à toutes vos qualités, toutes vos vertus. Consentez à devenir ma femme. J'ai quelques fortunes, rien ne vous manquera, et je veillerai attentivement à ce que vous soyez heureuse. À ces mots, je songeais à mes parents que mon mariage allégerait d'une charge immense, et dont les misères seraient dissipées par le secours et l'influence d'un gendre aisé. « Si je consentais à vous épouser, répondis-je, votre amour-propre d'homme souffrirait. Je ne pourrais vous voir. Hélas, dit Monsieur de Sol, je vous dois une confession. Parlez. Je suis un enfant disgracié de la nature sous le rapport physique. Je n'ai ni le charme du visage, ni l'éclatante pureté du teint, ni la noblesse de la démarche. Pour comble de malheur, un fléau aujourd'hui rendu impuissant par l'application universelle de la vaccine m'a sillonné les joues sans pitié. Vous le voyez, en épousant une aveugle, je fais preuve d'égoïsme, je manque d'humanité. Je lui tendis la main. Je ne sais si vous êtes trop sévère pour vous-même, mais je vous crois bon et sincère. Prenez-moi donc tel que je suis. Rien du moins ne distraira ma pensée de la vôtre. Votre amitié sera une oasis dans le désert de la nuit. Fais-je bien, fais-je mal? Je l'ignore, chère Anaïs, mais je viens en aide à mes parents. J'ai peut-être trouvé à tâtons la bonne route. 5e lettre. Je remercie la bonne amitié des compliments et des félicitations dont ta lettre est remplie. Oui, je suis mariée depuis 2 mois, et je me trouve la plus heureuse des femmes. Je n'ai rien à désirer. Idolâtrée par mon époux, chérie par mes parents, qui ne m'ont pas quittée, je ne regrette pas la vue, puisqu'Edmond voit pour nous deux. Le jour de mon mariage, mon miroir, c'est ainsi que je l'appelle, a réfléchi avec complaisance mon onction de jeune mariée. Grâce à lui, j'ai su que la robe de crêpe était bien faite et que la couronne d'oranger ne penchait pas trop sur le côté. Trouve-moi beaucoup de miroirs grossissants ou de glace de Venise d'une semblable fidélité. « Quand je vous regarde, m'a dit l'autre jour Edmond, je ne parle pas seulement, je réfléchis. Sans calembour. » Et j'objectais. Le soir, nous nous promenons ensemble dans le jardin, et il me fait admirer les fleurs par leur parfum, les oiseaux par leur chant, les fruits par leur goût, et la douceur de leur contact. Parfois nous allons au théâtre, et là encore il reproduit, par son esprit, tout ce que mes yeux fermés ne peuvent voir. Oh, que m'importe sa laideur! Je ne sais plus ce qui est beau, ce qui est laid, mais je sais ce qui est affectueux et bon. Au revoir donc, chère Anaïs. Réjouis-toi de mon bonheur. 6e lettre. Je suis mère, Anaïs, mère d'une petite fille, et je ne puis la voir. On la dit gentille à croquer. On prétend que c'est ma miniature vivante, et je ne puis l'admirer. Hélas, combien est fort l'amour maternel. J'ai consenti sans regret à ne pas envisager l'azur du ciel, l'éclat des fleurs, les regards de mon époux, de mes parents, de ceux qui m'aiment, et il semble que je ne puisse me résoudre à ne pas voir mon enfant. Oh, si le bandeau de crêpe qui couvre ma vue pouvait tomber 1 minute, 1 seconde seulement. Si je pouvais la regarder comme on regarde l'éclair qui disparaît, je serais si heureuse. J'aurais de la fierté pour toute la vie. Edmond ne peut pas me servir de miroir ici. Il a beau me dire que ce chérubin, des cheveux blancs frisés, de grands yeux bien mutins, un sourire de perles et de carmin, à quoi me sert-il? Je ne puis pas voir mon enfant adoré quand il me tend les bras. 7e lettre. Mon époux est un ange. Sais-tu ce qu'il fait? Il me fait soigner depuis 1 an à mon insu. Il veut me rendre la lumière et le médecin, c'est lui. Lui qui a embrassé un état que réprouvait sa trop vive sensibilité pour disputer une victime aux infirmités humaines. « Ange de ma vie, m'a-t-il dit hier, sais-tu que j'espère? Est-il possible? Oui. Ces lotions que je te faisais adopter sous prétexte qu'elles embellissaient le visage n'étaient que les préparatifs d'une opération bien autrement importante. Laquelle? Celle de la cataracte. Ne trembleras-tu pas? Non, ma main sera sûre car mon cœur sera dévoué. Oh, lui ai-je dit en l'embrassant. Tu n'es pas un homme, toi. Tu es un ange de commisération. Hélas, observa-t-il, embrasse-moi encore. Laisse-moi jouir de ces derniers moments d'illusion. Que veux-tu dire, ami? Que bientôt, Dieu aidant, tu verras. Et alors? Et alors tu me verras tel que je suis, insignifiant et laid. À ces paroles, il m'a semblé qu'un éclair se faisait dans ma nuit. C'était ma pensée qui l'illuminait comme un flambeau. Monsieur, lui-je répondu en me levant, si vous ne croyez pas à mon amour, si vous supposez que, quel que soit votre visage, je ne sois pas votre esclave empressé. Laissez-moi dans mon néant, dans mon chaos éternel. » Il n'a pas répondu, mais il m'a pressé la main. L'opération, m'a dit ma mère, pourrait être tentée dans un mois. Je me suis rappelé les détails que j'ai demandés sur mon époux. Maman m'a dit qu'il était grêlé. Papa affirme qu'il a les cheveux très clairsemés. Lisette, notre bonne, soutient qu'il est vieux. Être grêlé, c'est être la victime d'un accident. Être chauve, c'est un signe de puissance intellectuelle, a dit l'avatar. Mais être vieux, c'est dommage. Et puis, si la nature suivait malheureusement son cours, s'il devait mourir avant moi, j'aurais moins de temps à l'aimer. Enfin, chère petite, si tu te rappelles les histoires du magasin des enfants que nous lisions ensemble, toi des yeux et de la voix, moi de l'esprit et du cœur, tu avoueras que je suis quelque peu dans la situation intéressante de la belle et la bête, sans avoir la ressource de la transformation. En attendant, prie pour moi, car si Dieu nous assiste, qui sait si je ne pourrai pas bientôt lire tes lettres adorées. Dernière lettre. Oh, mon ami, ne regarde pas la fin de cette lettre avant d'en avoir lu le commencement. Prends ta part de mes douleurs, de mes péripéties et de mes joies en suivant leur marche naturelle. L'opération a eu lieu, il y a 15 jours. Une main tremblante s'est posée sur mes yeux. J'ai poussé deux cris terribles, puis il m'a semblé voir le jour, la lumière, la couleur, le soleil. Puis un bandeau a été immédiatement replacé sur mon front brûlant. Guéri. J'étais guéri. Il ne fallait plus qu'un peu de patience et de courage. Edmond m'avait rendu aux douceurs de l'existence. Mais, faut-il te l'avouer, j'ai fait une imprudence. J'ai désobéi à mon médecin. Il ne le saura pas. D'ailleurs, il n'y a pas de danger aujourd'hui, même dans ma témérité. On m'avait apporté ma fille à embrasser. Nicette la tenait sur ses genoux. L'enfant disait de sa voix douce, « Ma mère, je n'ai pas pu y tenir, j'ai soulevé mon bandeau. »« Ma fille, oh qu'elle est belle !» me suis-je écrié. « Je vois !» Nicette a bien vite ramené le mouchoir sur mes paupières, mais je n'étais plus seul dans l'obscurité. Ce visage de chérubin, retracé par le souvenir, illuminait désormais ma nuit. Hier, ma mère est venue m'habiller. On a été longtemps à ma toilette. J'avais une belle robe de soie, un col garni de maline, les cheveux arrangés à la Marie Stuart. Quand mes atours ont été complets, ma mère m'a dit « Ôte ton bandeau ». J'ai obéi. Et bien qu'un demi-jour régna dans l'appartement, il me sembla que je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Je serrai ma mère, mon père, mon enfant sur mon cœur. « Tu as vu ?» dit mon père. « Tout le monde excepté toi. »« Et mon mari ?» m'écriai-je. « Où est mon mari ?»« Il se cache, » dit ma mère. Je me souvins alors de sa laideur, de sa toilette, de ses cheveux rares et de son visage labouré par une maladie épidémique. « Pauvre et cher Edmond, lui dis-je, qu'il vienne. Il est pour moi plus beau que l'Adonis. » En attendant ton entrevue avec le Seigneur et Maître, reprit maman, admire-toi, regarde-toi dans la glace. Tu peux t'y mirer longtemps sans péché, si le temps perdu t'est compté. J'obéis un peu par complaisance, un peu par curiosité. Si j'étais laide, si on m'avait caché ma laideur comme ma pauvreté, on me conduisit à ma psyché, et je jetai une exclamation de joie car j'étais charmante, à croquer, avec ma taille fine, mon teint rosé et mes yeux un peu éblouis, qui semblait de saphir agité. Toutefois, je ne pouvais me voir bien à l'aise, car la glace tremblait sans cesse et mon image réfléchie sur sa surface brillante avait l'air de danser de joie. Je regardais derrière la psyché pour voir ce qui la mettait en mouvement. Un jeune homme en sortit, un beau jeune homme aux grands yeux noirs, à la taille imposante, et dont l'habit élégant était orné de la rosette de la Légion d'honneur. Je rougis en le voyant, et en songeant que j'avais été aussi folle devant un étranger. « Regarde donc, » me dit ma mère, sans prendre garde à lui, « comme tu es blanche et rose. Maman, » m'écriai-je, « mais voyez donc ces bras de duchesse allemande. » Et elle relevait sans scrupule mes manches au-dessus du coude. « Mais, maman, » dis-je, « y songes-tu, devant un étranger ?»« Un étranger, c'est un miroir. » Je ne parle pas de la glace, mais de ce jeune homme qui se trouvait derrière, comme un amoureux de vaudeville. « Hé, saute !» s'écria mon père. « Ne sois pas honteuse, c'est ton mari. »« Edmond ?» m'écriai-je. Je fis un pas pour l'embrasser. puis je me reculais tant il était beau, tant j'étais heureuse. Aveugle, j'avais aimé de confiance. C'était un nouvel amour qui faisait battre mon cœur. Augmenté par la générosité de cet homme d'élite qui avait fait dire partout qu'il était laid pour me consoler de mon aveuglement. Edmond se mit à mes genoux. Maman me poussa dans ses bras, essuyant ses larmes. « Que vous êtes belle !» me dit mon mari avec extase. « Flatteur !» m'écriai-je en baissant les yeux. « Non !» Quand j'étais seul, votre miroir, je vous l'ai toujours dit. « Et voyez, mon confrère, que vous avez consulté, est du même avis que moi. » Ainsi s'achève « Le miroir, mémoire d'une jeune aveugle » par Léo L'Espèce.